des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, nous passons une heure avec Philippe Solers, un cas Solers, romancier dont les débuts furent bénis par les fées Mauriac et Aragon, le Vatican et le Kremlin tout à la fois, mais qu'on accuse toujours de ne pas faire de roman. Solers, un intellectuel, mais critique avec les intellectuels, un chef de bande, oui, mais qu'on dirait poursuivi par la solitude, animateur de revues en marge, devenu institution éditoriale, de tel quel à Gallimard, parisien bordelais, à moins qu'il ne soit parisien vénitien ou bordelais vénitien, vivant aimant les morts, médiatique épinglant ce qu'il appelle les médiens, fin politique qui s'en est mis à distance, érudit tendance cagneuse ne dédaignant pas le babil de Twitter, Solers donne dans ses textes à entendre une musique du passé, mais aussi, paradoxalement, le son du contemporain le plus pur. Est-ce parce que cet écrivain, éditeur, agitateur, avant-gardiste, conservateur, vit, selon ses mots, au plus que présent? Philippe Solers est l'invité du Temps des écrivains. Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Alors, au plus que présent, qu'est-ce que ça veut dire cette expression?
Vous êtes dans une situation très particulière que vous devez ressentir comme moi. Vous avez l'impression d'être en effet poursuivi par un présent accéléré qui fait que hier, c'est après-demain déjà, vous êtes obligé de vivre dans ce temps extrêmement présent. Mais en fait, ce qui se dégage de ce temps, hein, super présent, instantané, priorité au direct, les attentats, la publicité qui s'en mêle, tout ça confus, confusionniste, provoque votre absence. Alors, il faut être à la hauteur de ce temps qui, en quelque sorte, se désagrège.
À la hauteur ou en surplomb de ce temps qui se désagrège?
Alors, les deux, il faut être dedans parce que le poison a son intérêt. Il faut être comme un poison dans l'information, enfin, c'est-à-dire en retirer l'essentiel et se concentrer dans l'urgence absolue. Vous vous mettez en état d'urgence. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est la suivante. Sur quoi avez-vous envie de vous radicaliser? Je vais vous donner la réponse immédiate qui est celle d'un très grand joueur d'échecs. Renforcer les points forts, jamais les points faibles. Donc, si vous voulez jouer avec la monstruosité du temps qui vous est présenté, qui vous lave le cerveau, parce que vous passez tout votre temps en digital, en communication, donc vous n'avez plus le temps de mémoriser ce que vous faites, vous n'avez plus le temps de lire, vous oubliez le paragraphe que vous venez de lire, vous êtes perdu, d'ailleurs vous en foutez, vous avez... Donc, voilà. Sur quoi avez-vous envie de tenir bon?
Ouais. C'est alors,
c'est la question d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de tenir bon dans ce que j'écris, ouais. C'est tout.
Ouais. Sur la littérature. Alors, vous publiez un nouveau roman, Philippe Solers, Mouvement, chez Gallimard, un roman placé sous le haut patronage de Hegel, le philosophe que vous citez en exergue, la vérité et le mouvement d'elle-même en elle-même. Comme tout roman de Solers, c'est un roman solersien, c'est-à-dire qu'on est bien en peine qu'on est bien en peine d'y trouver une intrigue, tant celle-ci est comme dynamité.
Oui.
Oui, pourquoi vous dites hélas? À nouveau, le reproche qu'on vous fait de l'intrigue,
ça fait longtemps que ça dure. Quelle est la story? Est-ce que ça ferait un film? Comment est-ce qu'on pourrait en tirer un film? Patati et patata. Vous prenez par exemple, soyons modestes, prenez Picasso. Alors, il vous met devant le portrait d'Ambroise Vollard à la cubiste. Et on lui dit, écoutez, monsieur Picasso, c'est d'accord, mais on reconnaît pratiquement pas Ambroise Vollard, là. C'est pas une photo. Ah non, mais moi, je fais la peinture comme ça.
Enfin, une intrigue n'est pas forcément
la question,
réaliste.
La question, c'est que quand on cherche l'intrigue, on cherche le résumé. On cherche le résumé qui pourrait donner lieu au scénario pour le cinéma. Alors que là, il faut lire une composition, qui est d'ailleurs musicale, et qui fait que tel ou tel passage va à un autre passage, et que chaque composition se répond. Donc c'est de la musique, si vous voulez, hein, ou de la peinture, disons cubiste, pour désespérer le lecteur, qui veut des photographies, bien sûr, des images.
Oui, c'est curieux, en même temps, je vous interromps, mais l'intrigue, ça date pas d'un rapport au cinéma. L'Iliade, texte que vous aimez, il y a une intrigue. Dans le grand roman français du 19e, il y a une intrigue. Chez Zola, chez Balzac, il y a une intrigue. Il n'y avait pas de cinéma encore.
Oui.
Dans l'Astrée, il y a une intrigue.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'intrigue, désormais, l'intrigue urgente, c'est l'histoire dans des grandes dimensions. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer avec ce temps historique? Pourquoi je prends Hegel? Bon, n'importe quel dictionnaire, vous l'ouvrez, vous dit Hegel, philosophe qui pour la première fois introduit l'histoire dans la philosophie. C'est vrai. Et non seulement il introduit l'histoire, mais il introduit quelque chose de tout à fait extraordinaire qui est la pensée de la mort. N'est-ce que vous en êtes avec la pensée de la mort? Ces temps-ci, vous avez de quoi réfléchir, ou même être inquiet, ou même vous demander pourquoi vous êtes en vie. Ah, est-ce que vous avez encore, est-ce que la vie a encore un sens, etc. Regardez le bouquin. Vous l'ouvrez. Vous êtes tout de suite, et ça c'est l'intrigue, vous êtes tout de suite avec un type qui a des insomnies, qui entend du bruit, et qui ne sait pas que c'est pas des acouphènes, il a la nuit gronde. Hein, ça s'appelle le premier message, c'est comme s'il y avait un bruit, voilà.
Un bruit souterrain à peine audible, hein, qui va durer toute la nuit, c'est la première
phrase. Qui va durer toute la nuit. Après, vous aurez la description des insomnies qui sont très différentes selon qu'il est 3h ou 5h du matin. Donc, nous sommes dans une vie d'expérience et c'est ça l'intrigue. C'est l'intrigue de quelqu'un qui il essaye d'être extrêmement attentif à ce qu'il a dans l'oreille ou sous les yeux. Donc, tout de suite arrive quoi? Ben, la Bible, c'est-à-dire les psaumes. Poésie grandiose. Donc, et puis après, c'est autre chose.
La peinture de Lascaux, les textos. Lénine, que vous retrouvez en rêve pour parler de Stendhal, ou plutôt de Joseph de Maistre, la Bible, hein, vous en avez parlé, Sade, la fronde, l'ADN, la Chine, Allah, l'humour, l'enfer, le parfum des lauriers qui flotte dans le jardin au petit matin, et beaucoup de notations sur le mouvement, hein, qui donne son titre à votre texte. Il s'agit maintenant d'examiner une existence humaine, écrivez-vous, ayant atteint le mouvement perpétuel, ou ce qui revient au même, un volume très clair qui se lirait continuellement lui-même. Du coup, ma première question, Philippe Solers, en dehors de ces problématiques d'intrigue, pourquoi avoir arrêté ce livre qui fait 229 pages? Est-ce que ce livre même n'est pas une réfutation du principe qui a conduit à son écriture, le mouvement perpétuel?
Non, je crois pas. Je crois que si on prend le temps de lire, on a accès à quelque chose qui donne une autre perception du temps. Il faut savoir dans quelle époque on vit. On vit une époque absolument infernale, suffocante, réactionnaire, régressive, abrutie, meurtrière ou pas. Si on ne le sent pas, si on n'en est pas bouleversé à chaque instant, c'est pas la peine d'écrire des romans réalistes avec intrigue, sans intrigue, avec du cinéma, pour pas un cinéma, si vous voulez. Vous pouvez regarder la télévision jour après jour, toute la journée. Déjà, vous y êtes demain. Vous avez les bustes qui sont castrés dans leur fauteuil et qui vous font des commentaires sur la guerre. Est-ce que c'est la guerre, pas la guerre? Non, c'est pas la guerre. Parce que la guerre, c'est des militaires qui affrontent des militaires. Ah bon, là, c'est pas la... Bon, mais là, ils tuent n'importe qui. Ils tuent pourquoi? Non pas pour ce qu'ils font. Les civils innocents, bien sûr, affreux. On retrouve éparpillé. Vous voyez le temps qu'il faut pour déceler l'identité de quelqu'un qui a explosé dans le métro. Hein, on va chercher un doigt. Alors avant de trouver le doigt de ces corps bousillés, voilà. Donc, bien sûr que c'est une guerre. Mais c'est ce que Rimbaud appelle le combat spirituel, si vous voulez, que d'une façon tout à fait précise. Voilà, c'est tout.
Depuis le début de cette émission, en fait, vous revenez constamment à ce point de l'époque, à ce conflit. Au radicalisme, l'écrivain que vous êtes, le journaliste aussi hein, que vous avez été, hein, oui. N'arrive pas à s'extraire justement de ce chaos, de cette épaisseur d'époque, de ce nuage contemporain, opaque, étrange, explosif.
Non, on vit là-dedans et la réponse qui doit exister, c'est la façon dont on respire quand même, dont on tient debout. Quand même, au lieu d'être déprimé, et affaissé et passif. Si vous êtes passif, autrement dit, il faut entraîner votre mémoire. Si vous n'avez pas entraîné votre mémoire, vous devenez poreux. La mémoire, c'est un muscle, vous savez, c'est un sport de haut niveau. Donc si vous ne l'entraînez pas, il devient flasque. ma femme qui est psychanalyste me dit un jour, il y a un an et demi, elle me dit, c'est curieux, elle ne me parle pas des cas névrotiques qu'elle a sur son divan. Non,
Julia
bien sûr.
Julia Kristeva. Hein.
Julia, elle me dit, c'est curieux, depuis quelque temps, les patientes et les patients se plaignent de ne pas pouvoir lire plus d'une page et demie, ou alors de ne pas pouvoir mémoriser ce qu'ils viennent de lire. Voilà à quoi vous avez affaire, c'est-à-dire au contraire du mouvement. J'essaie de remettre tout ça en mouvement. Vous avez au contraire une passivité qui va se faire intoxiquer, qui va se soumettre.
Ce livre, ce titre, Mouvement, le fait que Hegel vous contacte hein, pour vous parler de mouvement, pour vous dire qu'il a envie d'écrire un roman aussi, c'est une réponse à cette époque d'immobilité, à cette époque... de pétrification.
Tout a l'air de bouger à toute allure et tout est immobile en réalité et pétrifié. Voilà, vous le ressentez ou vous le ressentez pas. Ou alors vous courez après l'accélération. Vous courez après l'information, vous êtes gorgé d'informations, vous attendez la suite. Hein, tout...
Pourquoi avoir choisi Hegel précisément ?
Hegel d'abord se signale, d'abord l'histoire, penseur de la mort. Ce qui m'intéresse c'est de dire pourquoi Hegel... Et ses amis de Tübingen, admirables, Schelling et le grand poète qui est Hölderlin, hein, voilà, les poètes seuls fondent ce qui demeure, justement, parce qu'ils sont là, d'une certaine façon. Ce sont des gens qui avaient 20 ans au moment de la Révolution française et qui lisaient la propagande, figurez-vous, girondine. Voilà. Donc, Hegel est celui qui dit, voyons, les Français, ont une énergie considérable. Ce qu'ils viennent de faire est fabuleux. Ils viennent de triompher de milliers d'années de préjugés. C'est la révolution. Évidemment, ça tourne un peu mal parce que c'est un bémol, c'est la terreur, ça va pas très bien. Ils ont une énergie considérable. Ils ont eu. Regardez-les aujourd'hui. C'est vraiment, ils ont une énergie considérable. Ils sont incapables de penser ce qu'ils ont fait. On va penser cette mutation extraordinaire, de même qu'il y a eu le christianisme.
On va penser le mouvement. Hein.
On va penser deux dates principales, dont on continue à parler autour, c'est le christianisme. Le christianisme continue parce que vous ne pourrez pas signer un chèque qui ne soit pas du calendrier de Grégoire XIII. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour signer des chèques. Bon, c'est le temps. Et puis la Révolution française. Voilà, les deux piliers. Moi, je crois que la Révolution française demande à s'approfondir. Les droits de l'homme doivent s'approfondir.
De plus en plus aujourd'hui.
Mais oui, d'autant plus. Donc, mais seulement les Français ne sont pas dignes de leur révolution. Du coup, ils courent sous le nom de socialistes ou n'importe quoi. Ils courent à leur déliquescence, ce qui est le marasme politique dans l'impuissance d'aujourd'hui.
Hegel, c'est moi, comme disait l'autre avec Bovary.
Hegel, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est moi. Madame Bovary, c'est plus facile. Se faire femme, c'est vraiment à la portée de Flaubert. Mais...
Dans ce livre.
Hegel, c'est le destin. Regardez Hegel en 1806, il est taillé là. Il vient d'écrire la phénoménologie de l'esprit, texte magnifique, sublime. Il se met à son balcon, qu'est-ce qu'il voit passer? L'âme du monde. C'est qui l'âme du monde? C'est Napoléon. Napoléon, et après, il dit, mais quel échec tragique, ce génie, voilà. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est dans ce roman, c'est la démonstration rigoureuse que Marx n'a pas compris Hegel. Pourquoi ? Parce que Marx ne pense pas à la mort. Je vous signale que la mort est un problème. Oh, vite, passons vite, parce que ça pourrait inquiéter tout le monde. En tout cas, je vous signale qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de mourir, et c'est justement là leur force.
Précisément, ce qui est, j'ai appris, on apprend beaucoup de choses. Hein. Il y a à apprendre hein, chez Solers, et notamment dans ce mouvement.
Que l'une c'est ça le roman.
Exactement, voilà, c'était l'une de vos définitions d'ailleurs. Il y a à apprendre. Et c'est ce que disait Mozart d'ailleurs à propos de Bach,
hein,
qu'on écoutera tout à l'heure. L'une des descendantes de Hegel, rappelez-vous, Philippe Soler, est Gudrun Ensslin, l'une des figures les plus marquantes de la fraction Armée Rouge.
Oui.
Mais fraction, donc marxiste, radical et terroriste. Ce genre de rapprochement, de filiation, vous intrigue, vous surprend, ajoute une pierre à vos théories, Philippe Solers ?
J'ai été très surpris, dans mes petites recherches à propos de la vie de Hegel, d'apprendre que sa petite fille, c'était Gudrun Ensslin, qui s'est suicidée en prison. C'est quelqu'un qui a tué beaucoup, un certain nombre de gens, hein, quand même, avec Ulrich Meinhof, Bader, etc. Bon, tout ça a fait partie de l'épopée terroriste intra-européenne allemande. Eh bien, elle descend de Gaël. Son père était évangéliste. Il la prénomme Gudrun et elle est née en 1940. Ce qui prouve que cet évangéliste charmant, sûrement, son père, et avait plein de Wagner dans les oreilles. Hein, Gudrun, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est là où la musique intervient, parce que Wagner, ça fait quand même beaucoup de bruit. Hein, et il s'en est suivi. Bon, je passe ce que vous savez.
Quand vous découvrez ça.
Quand je découvre ça, je me pose tout de suite la question. Ce sont des personnes, elles, intelligentes, Meinhof aussi, enfin bon, elles se disputaient Bader, c'est intéressant, il y a des grosses histoires érotiques là-dedans, bien entendu. Mais je me demande si Gudrun, aujourd'hui, si elle était aujourd'hui, ne se convertirait pas à l'islam radical.
Pourquoi, en fait? Pourquoi? C'est parce qu'il est dans l'air du temps, dans le fond de l'air, dans le bruit.
Parce que ça voudrait une foi type. Peut tuer. Là, c'était du marxisme radicalisé, si vous préférez.
Mais c'est-à-dire, en vous écoutant, on se dit quoi? L'islamisme a pris le relais du marxisme, en fait?
Est-ce que vous posez cette question? Non, parce que c'est plus déclarativement religieux. Vous avez des phases dans l'histoire. C'est pour ça que Hegel est nécessaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? De quoi il s'agit? Et vous avez le penseur de la mort qui vous dit quelque chose. Si vous passez comme ça en disant c'est des fous, c'est des délires. Non, c'est pas du tout, pas du tout.
On va vous entendre lire justement un passage de mouvement. Justement, c'est la section Allah, justement, puisque vous parlez de cette époque, de ces événements, de ce bruit contemporain.
Voilà. Le narrateur imagine qu'il va être... ça, c'est une sorte de demi-rêve, hein, de cauchemar. Je ne sais plus où je suis, qui je suis. La foule est énorme. Ce doit être le pèlerinage à la Mecque, tournant et tendu vers le cube où la pierre noire sacrée est scellée. Dieu est clément et miséricordieux, soit, mais j'étouffe. Allah est l'évidence même, mais l'inondation des croyants me le cache. Il ne faudrait pas qu'ils me prennent pour un infidèle, ou un mécréant, un vrai faux juif, un vrai faux chrétien, et qu'ils repèrent que mon jet de pierre pour lapider Satan est mou, réservé, suspect. Je suis un blanc occidental, porteur de microbes. J'irai en enfer, c'est sûr, obligé de boire de l'eau bouillante dans le feu éternel. Voilà. Alors, ce qui est drôle là, c'est que il regarde autour de lui et il a affaire à deux Français radicalisés qui se doutent que ce Français qui est là n'est pas suffisamment radicalisé. Voilà.
Et vous écrivez, Philippe Solaire, j'ai pourtant une grande envie de me radicaliser sur des paysages.
Voilà, c'est la question que je vous pose et que je pose à tous les auditeurs de cette émission. Sur quoi avez-vous envie de vous radicaliser? C'est-à-dire, qu'est-ce qui tient le coup face à l'autre radicalisation mortifère?
En quoi le terrorisme, Philippe Solaire, et l'islam devaient-ils trouver sa place dans le mouvement?
Parce que c'était une façon de voir que la mort changeait de nature. Enfin, vous avez eu des massacres à n'en plus finir, je ne vous apprends rien. Là, vous avez quelque chose de beaucoup plus bizarre. Vous aviez des bombes. Bon, les bombes, ça tue beaucoup de gens, puis on attend la suivante, si elle arrive, Madrid, Londres, Paris. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Vous avez des bombes humaines qui n'ont absolument aucune peur de mourir dans leur propre corps en se faisant exploser, en tuant le plus possible de monde. Donc je crois qu'on les appelle les kamikazes, mais ça n'a rien à voir avec les kamikazes japonais qui se jetaient sur les porte-avions américains. Vous comprenez? Vous êtes entré dans cette dimension qui peut vous rejoindre demain ou après-demain, dans le métro, vous comprenez? Voilà.
Et l'écrivain que vous êtes devait forcément inclure cette nécessité-là, cette question-là, dans l'époque de son livre.
Si je pense pas à la mort depuis et toujours, j'ai pas besoin d'être écrivain. Hein. Vivre, c'est apprendre à mourir. Je suis de Bordeaux, Montaigne. Hein. Voilà.
On va écouter votre premier choix musical, Philippe Solaire, avant de continuer à parler de mouvement et de votre travail d'écrivain. Vous avez choisi les variations Goldberg, Bach, hein, évidemment, interprétées par Glenn Gould, variation numéro 5. Variation Goldberg, interprétée par Glenn Gould. C'est le choix de Philippe Soler, c'était la variation numéro 5. Pourquoi ce choix? Quand on a lu Mouvement, on comprend mieux, mais peut-être les auditeurs n'ont-ils pas encore tous lu votre livre.
C'est un génie. C'est un génie, Gould, et qui a affaire à un autre génie, Bach, et qui emploie toute sa vie à faire vivre Bach, ou Haydn, les derniers enregistrements de Gould, absolument sublimes. C'est-à-dire que vous avez la virtuosité, faire entendre la note pour la note, par exemple, on dirait, mais c'est un roman, mais oui, fourmillant, magnifique, mais où est la mélodie? Vous écoutez, est-ce que vous écoutez les deux mains? Est-ce que vous avez entendu la main gauche? C'est parce que c'est très important d'avoir un pianiste de génie à quatre mains, au moins, il a deux main à gauche, deux mains à droite, il va à toute allure et il enveloppe tout ça sans regarder même la partition, il sait tout par cœur. Vous avez vu des enregistrements de Gould, comment il s'assoit avec le menton sur le clavier. Et en plus, il chantonne. Donc le corps, voilà le problème. Que devient le corps humain dans la situation globale actuelle?
On lit un livre comme on écoute de la musique aussi. Vous parliez des mains, la première main, la deuxième main. On doit lire aussi comme ça, quand vous lisez les auteurs que vous aimez.
Absolument. J'ai l'impression de voir leur corps, j'ai l'impression de les voir en train de penser et d'écrire. Vous savez, ce qui monte comme prix, c'est plus du tout... Les livres vont au numérique et tout le monde est là pour les oublier. Le problème n'est plus là. Ce qui vaut de plus en plus cher, ce sont les manuscrits. Cher monsieur, eh bien, les collectionneurs sont à l'œuvre. Comment croyez-vous que je vis?
Philippe Soler, on parlait à l'instant de ce terrorisme qui est aussi présent dans Mouvement. Je me souviens que vous aviez réagi à un moment où se produisait ce phénomène, c'est que les gens continuaient ou recommençaient à acheter Voltaire, à acheter le traité sur la tolérance notamment, qui avait atteint 100 000 exemplaires après les attentats du 7 et 9 janvier. Vous aviez cité Roland Barthes à l'époque, qui dans sa préface au roman et conte écrivait « Nul mieux que lui, donc Voltaire, n'a donné au combat de la raison l'allure d'une fête, tout était spectacle dans ses batailles ».
Magnifique.
Voilà, Barthes vous manque, on le sait, mais Voltaire aussi, aujourd'hui on aurait besoin de lui.
Mais moi, j'ai besoin des lumières. Mmh. Je trouve que tout est obscur, que l'obscurantisme gagne tous les jours. L'illettrisme, n'en parlons pas. L'analphabétisme est constant. Bon, tout le monde se plaint. Moi, je me plains pas du tout. Au contraire, je crois qu'il faut aller de l'avant. Il faut affirmer les lumières et les réaffirmer sans arrêt. Donc, je suis un peu stupéfait de voir que les Français ne sont pas conscients de leur lumière. Après tout, non seulement ils ont fait la Révolution, mais non seulement ils ont fait l'encyclopédie, non seulement ils ont eu des gens comme Diderot ou Voltaire, mais enfin, où en sont-ils, les pauvres? Oh là là! Prêts à dire du bien de n'importe quel bouquin barbant. Mais traduit du Yankee.
Vous dites que vous avez besoin des lumières, que tout n'est pas perdu. On se souvient de votre article sur la France moisie. Là, vous l'appelez la France du repli sur soi. On a l'impression que vous êtes aussi tenté par une pensée de la décadence, très à la mode, le côté tout est fini. Je vous cite Philippe Solers. « Je me suis sans cesse entraîné à graver en moi des souvenirs comme s'ils devaient être éternels. La présence réelle et sa petite lumière rouge à gauche des autels dans les églises catholiques m'a sûrement inspiré dans mon enfance. » Présence réelle, oui, celle qui traverse les siècles pendant que tout s'efface et s'éteint.
Oui, mais vous voyez ce que c'est que le plus que présent, c'est-à-dire la présence réelle. Ça, je n'ai pas nié ce que j'ai appris dans le culte catholique, qui est lui-même devenu exempt, il faut bien le dire. Voilà, c'est une agence humanitaire, désormais. Non, je trouve intéressant de faire vivre quelque chose, là, qui aurait une certaine coloration. De sacré. Les lumières, pour moi, c'est sacré. Les livres, c'est sacré. J'ouvre Rimbaud, c'est sacré. Voilà, la poésie. Ou alors le style, l'offensif, l'ironie de Voltaire, admirable, admirable. Vous avez 13 volumes de la correspondance de Voltaire en Pléiade, cher monsieur. Vous en ouvrez, vous l'ouvrez le matin, et vous ouvrez quasiment au hasard. Et je vous assure que votre journée sera changée.
La tolérance vendue à l'heure actuelle, c'est la fadeur, disiez-vous,
oui,
toujours en évoquant
Voltaire.
Décadence,
c'était le bon temps. Vous savez, parce que décadence, ça veut dire qu'il peut y avoir un sursaut. Enfin, prenons plutôt le mot déliquescence, qui est plus exact, puisque partout, vous avez l'impuissance politique, intellectuelle, etc. Voilà. Déliquescence, c'est vous mettez un sucre dans le café, vous le voyez, ce qui arrive, n'est-ce pas?
Vous avez fait l'aveu récemment d'avoir utilisé pour écrire la drogue dite des terroristes, le captagon.
Oui, absolument, je peux vous en parler savamment, d'autant plus qu'on a pris des tonnes de captagon, ça passe par la Turquie. On oublie toujours de parler de la drogue, il y a un chapitre consacré à la coke.
Exactement.
À cause du livre magnifique de Saviano qui est condamné à mort par la Camorra, bon, comme vous savez, et qui a écrit un livre qui s'appelle Extra Pur sur le trafic de drogue sur la planète. Qui n'a pas lu ça ne sait pas sur quelle planète il habite. C'est le Mexique et pourquoi, c'est ce qu'il explique avec...
Et pour vous, la drogue est intrinsèquement liée à l'écrivain. L'écrivain doit expérimenter ça.
Il y a des écrits fameux, hein. Je n'invente rien, c'est Thomas de Quincey, c'est
Artaud,
Michaud, Baudelaire.
Baudelaire avec les hachichins.
Absolument.
On y revient, hachichins. Assassin.
Voilà.
C'est le même mot.
Voici le temps des assassins à écrire. Hein, bon, c'est les croisés qui ont mal compris le mot hachichin, assassin. Voilà. C'est tout à fait ça. Bon, prenez. On va vous parler.
Expliquez-nous d'ailleurs, Philippe Soler, c'est intéressant, le vieux de la montagne, cette histoire.
C'est très important, bien sûr. Bien sûr, c'est une vieille histoire qui se trouve en Syrie, en Irak, etc. Bon, d'accord. Maintenant, on vous parle de Bruxelles, des attentats, etc., ou de l'État islamique. Vous avez un plaque tournante de quoi? Mais de la drogue aussi, enfin. Voilà.
Mais Philippe Solers, on se dit, quand on lit Mouvement, et quand on vous lit en général, quand on lit vos romans, je vais mettre des guillemets, et on les enlèvera s'il le faut à la fin de cette émission, puisqu'on reproche toujours de ne pas écrire des romans. Mais on a l'impression que la littérature vous aide, vous précisément, à faire le rapport entre terrorisme, assassin, assassin, secte des hachichins, le vieux de la montagne, hachichin, hachiche, captagon. On a l'impression que ça vous aide à dresser de gigantesques constellations littéraires, historiques, philosophiques.
Parce que je n'écris pas des romans du 19e siècle. Quand on me fait des reproches, c'est dire, et pourquoi vous n'écrivez pas des romans comme on l'a fait au 19e siècle? Et Picasso n'écrivait pas la peinture comme on l'a fait, enfin, voilà. Bon. La barbe, c'est pas ça qui est intéressant. J'écris le roman de mon époque dans ce cas-là de plus nerveux. Pour ça, il faut se renseigner, de plus essentiel, sur les points essentiels et urgents. C'est de la médecine, là, si vous voulez.
Mais pourquoi ça serait le roman de votre époque? Comment vous définiriez « j'écris le roman de mon époque » Pourquoi Mouvement serait le roman de cette époque-là? Qu'est-ce qui fait que c'est un roman d'époque? Vous parlez de Rimbaud, vous parlez de...
Parce que je suis en mouvement, contrairement à tous ceux qui continuent à faire du roman social, socialiste, du réalisme naturaliste, etc., d'écrire le petit bout de réalité provinciale. J'ai beaucoup d'estime pour Houellebecq, mais enfin, il ne faut pas oublier qu'il écrit son personnage principal, c'est Huysmans. Huysmans, c'est gentil. Mais enfin, c'est pas prose, vous comprenez? C'est-à-dire aller vers une soumission à un État islamique qui serait devenu modéré. Voilà son roman. Bon, c'est très très bien. Énorme succès international, vous savez pourquoi?
Dites-moi.
Parce que c'est l'écrivain de la misère sexuelle.
Oh, c'est un peu cliché ça, non?
Non,
maintenant.
Pas du tout. Vous pouvez pas toujours savoir à quel point tout ce qui est anglo-saxon, étranger, etc., a été jaloux de la liberté, du libertinage français. Et comme Houellebecq apporte cette très mauvaise nouvelle, très grand succès. Le français est effondré.
Ouais, le français vit dans la misère sexuelle, contrairement à ce français du 18e que vous célébrez.
Contrairement à ce dont on a souffert. Encore une fois, tout ça, la révolution a été faite par des voluptueux, dit Baudelaire. C'est curieux, c'est d'une justesse totale. Allez, essayez de dire ça au journal de 20h.
C'est-à-dire que... Houellebecq venge les étrangers, en fait, de cette idée que les Français seraient de superbes libertins.
Fornicateurs. Oui, c'est une forme d'esprit, vous comprenez, Bon, en tout cas, c'est ça son grand argument, et il le raconte très bien.
Pourquoi preniez-vous du captagon? Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Cette drogue-là, et pas du hashish, je sais pas, enfin, vous en preniez peut-être, mais ça produisait quoi littérairement, le captagon?
Littérairement, écoutez, j'ai écrit des livres, ça supprimait, en supprimant la ponctuation, paradis, vous démarrez au quart de tour, alors que pour écrire, il faut quand même se concentrer, on a le temps, on n'a pas le temps, mais enfin, bon, là, en un quart d'heure, j'étais au maximum de mon fonctionnement, donc mouvement.
Le début de mouvement, c'est Mozart et ses Bach, un Bach qu'on vient d'écouter et qu'on réécoutera au long de cette émission, Philippe Solers. Je voudrais vous citer. Mozart, en 1789, à Leipzig, entend pour la première fois un motet de Bach. Il est ébloui. Voilà quelque chose où il y a à apprendre. L'ensemble d'instruments et d'effets percussifs dépasse de loin les harpes et les tambours d'autrefois. Cela dit, Bach se considérait comme un maillon de la vénérable lignée des musiciens d'église qui depuis très longtemps a pour vocation de produire des chants d'action de grâce. Ensuite, vous passez à vous. J'avais, paraît-il à 12 ans, une très bonne voix de soprano qui m'a fait repérer par une ennuyeuse chorale. Je n'y suis pas resté longtemps, mais le phénomène de la mue m'a surpris comme si je devais renoncer à voler. Un angle de moi était devenu muet. J'ai beaucoup tenté de me transmuter à travers les mots et au fond j'écris des motets. Je peux chanter facilement, moduler, réciter, improviser, déclamer, mais enfin je ne suis pas un ange. J'écoute sans fin le vieux Bach, il me conduit. Aveu de faiblesse, ou du moins de puissance relative, Philippe Solers, on m'accuse toujours de ne pas écrire de vrais romans, à nouveau, hein, l'antienne hein, permanente. J'écris des motets, dites-vous.
Eh oui, mais le motet est une forme... C'est Bach qui nous l'apprend, c'est-à-dire qu'il faut une virtuosité. Pour être chanteur de motets, il faut une virtuosité particulière du corps. J'aime beaucoup regarder les chefs. Donc, par exemple, Arnaud Court, qui vient de mourir, et qui est un génie. Qui, lorsque vous l'entendez diriger mon ami Cecilia Bartoli, montre à quel point il sait ce que c'est qu'une musicienne qui chante. Et donc, elle est dans la voix, elle est très espiègle, elle lui dit, il faut la voir.
Mais pourquoi dire j'écris des motets? Je n'écris pas des romans, j'écris des motets. C'est-à-dire, il faut expliquer ce que c'est qu'un motet.
Un motet, c'est une forme musicale particulière où il faut chanter, en effet, d'une certaine façon, de façon courte en général. Les motets de Jean-Sébastien Bach. Simplement, est-ce que on écrit avec une intention musicale? Est-ce que ce que j'écris est musical? Si c'est pas musical, c'est à jeter.
Sauf que vous semblez le déplorer. Je ne suis pas un ange. Je chantais bien, hein, dites-vous, c'est le passage que je viens de lire. Je n'écris que des motets.
Oui, bien sûr, parce que mais j'aurais pu faire une... si j'avais pas eu ce choc de la mue, dont on parle pas assez. On parle jamais de ce qui arrive aux hommes. On parle beaucoup de ce qui arrive aux femmes. Mais vous avez remarqué, peut-être. Oui, le corps de l'homme devient quelque chose de très, très méconnu.
On le voit bien, là. Bon, je pense que les auditeurs entendent notre conversation, c'est-à-dire la façon que vous avez de passer d'un sujet à l'autre. Hein, on parlait de constellation tout à l'heure. Est-ce que c'est pas, quand vous dites, on me reproche de pas écrire des romans du 19e siècle, est-ce que c'est pas parce que, précisément, et vous aimez le 18e siècle pour ça, parce que vous êtes dans le tour de la conversation 18e, la conversation animée et rapide, qui faisait justement ce 18e, et qui faisait les œuvres des auteurs que vous aimez, dont on dit qu'ils sont mineurs, un Vivant de nom, par exemple, un Crébillon.
Oui, mais il y a des potions beaucoup plus noires, comme Sade, par exemple, ne l'oubliez pas. Vous savez, la conversation, vous avez parfaitement raison. Pas seulement, c'est ce qu'on appelait l'esprit. Et alors, quand Hegel cogite à mort sur l'esprit absolu, en rendant hommage aux révolutionnaires français, c'est pas du tout n'importe quoi. Voilà, alors vous avez ou vous n'avez pas de l'esprit. L'esprit, c'est de la répartie. C'est ce qu'on appelle un trait. Enfin, c'est la conversation, ça peut surgir. Autrement dit, c'est de l'improvisation. C'est parce que vous êtes en mouvement que vous avez de l'esprit. Ne pas avoir d'esprit, c'est être lourd, pétrifié, passif. Et puis c'est tout. Il y a des gens sans esprit, tant pis.
L'esprit absolu d'Hegel, hein, avec une capitale, hein, un capital, finalement, pour vous, c'est le même mot, c'est le même trait que l'esprit du trait d'esprit?
C'est l'esprit qui a besoin de trouver son corps avec un petit E. Voilà, l'esprit et le corps ne doivent pas être distincts. Tout est fait pour les séparer constamment. Voilà, les transhumanistes n'ont qu'une seule idée, c'est de se débarrasser de leur corps parce qu'ils croient qu'ils auront un esprit supérieur de l'intelligence artificielle, ce qui est bien le signe d'une débilité américaine qu'on connaît, mécanique. Non, le corps et l'esprit, c'est la même chose. Alors, vous pouvez prendre un sportif, et vous savez très bien que le mental, comme on dit maintenant, le mental, s'il est atteint, ça marche pas.
C'est l'idéal antique, ça. On revient à mens sana in corpore sano, ou le kalos kagathos des Grecs.
Mais je vous conseille de voir votre bibliothèque et vous prenez Pindare. Pindare, je vous assure, c'est un enchantement. Vous savez pourquoi? Parce que, vous savez que Verlaine a inventé le concept qui est largement exploité des poètes maudits. Et on vous dira toujours que les poètes, ils sont réservés, d'ailleurs ils ont disparu. Pindare, lui, bien avant Platon, Pindare était célébré comme un très grand génie dont on ne pouvait pas se passer. Les tyrans lui faisaient des offres sensationnelles. C'était le poète béni de la Grèce. Pourquoi? Parce qu'il a écrit les Olympiques, c'est-à-dire les Jeux où il y avait pas seulement des épreuves sportives, mais des épreuves de poésie.
C'est le grand poète du sport, de l'olympisme.
C'est sublime. Mmh. De toute façon, si vous supprimez le grec et le latin, ce qui est en bonne voie, n'est-ce pas, vous allez rentrer dans un tunnel qui a déjà eu lieu avant d'arriver à la Renaissance. Speriam, peut-être on y retrouvera. Mais si vous supprimez le grec et le latin, vous allez droit dans le mur obscurantiste.
Mmh. Donc relire Pindare, c'est la leçon de
Philippe Solaire. Par exemple, il faut tout lire. Il faut lire Virgile, il faut lire Pindare. Il faut lire le Noctes atque dies patet atrial de aditis, sed revocare gradum, superasque adora, hic opus, labor est, vous comprenez? Si j'avais pas fait du latin ou du grec, je ne saurais absolument pas qui je suis, mais je veux bien. Mais
vous ne seriez pas en mouvement, aussi en mouvement
qu'aujourd'hui. Bienvenue à l'hébreu, ça a été au Collège de France. Bienvenue à l'hébreu, bienvenue à l'arabe, bienvenue et surtout au chinois, il y a tout un chapitre. Bienvenue à la poésie chinoise, à l'admirable pensée chinoise, voilà.
Nous allons en parler de la poésie chinoise aussi. Nous écoutons, Philippe Solers, votre deuxième choix musical, toujours les variations Goldberg, donc interprétées par Glenn Gould, variation numéro 8. Voilà, Philippe Solers en train de jouer aussi des deux mains au piano pendant que nous écoutions les variations Goldberg.
Et
variation numéro
8.
Et les quatre oreilles. Les quatre oreilles, alors les deux autres.
Il faut un pianiste à quatre mains ou alors ça se sent qu'il ne les a pas. Ouais. Voilà, quatre mains et quatre oreilles, bien sûr. C'est une question de corps. Il faut regarder les musiciens en action. Il faut regarder comment ils se tiennent. Il faut regarder leur respiration pour les chanteurs ou les chanteuses. Il faut savoir à quel moment elle va respirer. Ou comment Bartoli, par exemple, a le R rentré italien que n'auront pas jamais une chanteuse française ou anglo-saxonne. Vous comprenez ?
Phrase de Mozart sur Bach dans Mouvement, votre roman, nouveau roman chez Gallimard, Philippe Solers. On le disait, je l'ai cité tout à l'heure. Voilà quelque chose où il y a à apprendre. Comme chez vous, Philippe Solers, pourquoi autant de citations ? J'ai lu que vous disiez parfois, ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves.
Bien sûr, puisqu'un raisonnement est en cours dans une situation particulière qui est une expérience de vie. Et à ce moment-là, on est en train de penser dans une situation infernale qu'il vaudrait mieux en sortir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut nous servir ? Des preuves de ceux qui ont réussi à aller plus loin dans des époques absolument impossibles. Donc ce sont des alliés. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, dit Baudelaire. Moi, j'entends les morts qui me chuchotent quelque chose. Ils m'appellent de la bibliothèque. Je tends le bras. Oh mais oui. Voilà, c'est aimanté. C'est pareil. Écoutez, vous êtes l'humanoïde d'aujourd'hui qui a, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, accès à tout ce que vous voulez. Toute la bibliothèque, tous les documents, des disques d'enregistrement, des heures, que par exemple Nietzsche aurait été tellement content d'avoir, il était obligé de faire des, de chercher, entendre Don Giovanni de Mozart, le pauvre Mozart aussi, mais il n'y avait pas de... Bon. Vous êtes le premier humanoïde, ou la première humanoïde, pour qui tout est disponible. C'est de ça qu'il faut parler, c'est ça le roman. C'est étrange, parce qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte que tout est à disposition et qu'il n'y a personne.
Il n'y a personne, pourquoi ? Pour en parler ?
Il n'y a personne pour se servir de ça. Au contraire, tout va vers la simplification. Et je pense qu'il y a très peu d'initiatives nerveuses, de mouvements du corps humain dans ses nerfs, dans ses désirs, pour s'approprier, alors que c'est pour la première fois possible, cette gigantesque liberté.
Vous, c'est une appropriation que vous faites des mots de Nietzsche, des mots de Claudel, des mots de Rimbaud dans Mouvement, des mots de Bach, des mots de Mozart, on en a parlé
parce
là.
Parce que je crois que les morts sont en danger.
Ouais. C'est une politesse que vous leur faites ?
Non.
Plus que ça, une invocation, un rituel magique ?
Non, c'est de la magie, oui. C'est de la magie. C'est-à-dire que je crois que les morts sont très en danger, encore une fois, analphabétisme, illettrisme, etc. Et je le sens, leurs supplications. La bibliothèque me supplie. J'entends leur voix. Dans l'ombre. C'est pas des citations pour faire bien. Non, ce sont des preuves de l'existence vivante des morts.
En fait, vous déplorez souvent que vous n'êtes pas assez lu. Par exemple, que Femme n'a pas été lu et qu'il sera lu. Hein, il attendra, il sera lu.
Je me plains pas, je constate.
Mais est-ce que c'est pas parce que, à travers vous, on lit surtout les autres? C'est-à-dire qu'on ne lit pas Solers, mais on lit Casanova, à travers Solers. On lit pas Solers, on lit Vivant de nom. On lit pas Solers, on lit Sade, en fait, dans Solers.
Gloire à Solers, il peut faire vivre tous ces morts qui ont bien besoin de soutien.
Le livre de Roland Barthes, Solers écrivain, commence comme ça. N'oublions pas Solers, mais on ne parle que de lui. Hier encore, j'ai vu qu'on l'attaquait dans un quotidien de gauche. On lui reprochait d'avoir été stalinien, maoïste et d'être maintenant cartésien. On ne parle jamais de lui, on ne dit plus jamais que c'est un écrivain, qu'il a écrit et qu'il écrit. Oui.
Diagnostic tellement lucide qui date d'il y a, c'est en 1978, je crois, ou
79,
voilà. Donc vous voyez que ça dure depuis longtemps. Barthes avait pris conscience de ça. On dînait assez souvent ensemble pour parler et s'entendre parler, écouter l'autre, etc. Et il me disait, déjà à l'époque, il me disait, vous savez, on va vers un monde extrêmement... C'est contre l'image, tout va être occupé par l'image.
Voilà,
votre geste, c'est de ne pas vouloir être pétrifié par l'image. C'est pour ça que c'est un geste extrême. Voilà.
Aimait ça. Mais est-ce que vous souffrez de cette image-là, Philippe Solers, que Barthes soulevait? C'est-à-dire, on parle de Solers, mais en fait, on a oublié que c'était un écrivain.
Je souffre jamais. Ou pratiquement pas. Voilà. Il cite Kafka d'abord. Hein. Je n'ai rien de définitif. Ah, c'est très beau. Le poids de l'image tend invinciblement à se solidifier. S'attaquer à cette immobilité, mouvement, s'attaquer à cette immobilité, à cette mortification de l'image, comme le fait Solers, c'est une action dangereuse, extrême, dont l'extrémité ne serait pas sans rappeler les gestes, incompréhensibles pour le sens courant, de certains mystiques, El Alash. Halal Haq, je suis la vérité, a-t-il dit avant d'être tué.
Il y a un mot que j'évoquais en introduction, c'est le mot médien. C'est-à-dire donc de médias, hein, les gens des médias, en fait, l'intellectuel.
J'ai écrit un livre qui s'appelle Médium. Hein.
Exactement, Médium. Et on a l'impression que vous êtes vous-même devenu ce que vous appeliez un médien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut conjurer la maladie de l'époque, qui est capable d'évoquer Monica Lewinsky ou Nabila, mais qui aussitôt invoque les mannes de Casanova, le Yi King, Mozart, Claudel, c'est-à-dire, on a l'impression que vous connaissez extrêmement bien l'époque, le contemporain, mais que vous essayez de la piéger et de l'élever petit à petit vers la haute culture, vers la petite lumière rouge qui brille encore dans la crypte dont vous parliez.
Je crois que l'époque est malade, très malade. Si vous voulez que je vous le démontre, amenons un poste de télévision, on va le regarder en continu.
C'est plus à la télévision d'ailleurs que ça se passe.
Alors, peu importe, voilà. L'époque est très malade. Nietzsche dit que pour être vraiment un philosophe, quelqu'un qui pense, il faut deux qualités, la philologie et la médecine. Et je crois que c'est ça qui est le fond du problème.
La philologie, oui. D'abord, pourquoi ?
La philologie, le sens des mots, d'où vient ce mot, comment il est employé, dans quel contexte, il a plusieurs sens, etc., etc., etc. Bon, je m'occupe du langage.
Motet vient de mots, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. C'est un morceau de musique qui vient d'abord, etc., etc. Bon, l'époque est malade, je la prends en consultation. Et j'essaie, avec de faibles moyens, mais tout de même avec des potions soigneusement réparties sur, j'appelle la bibliothèque ou la musique, etc., de guérir ce qui pourrait l'être. Et puis, il y a l'inguérissable qu'il faut savoir évaluer. Hein, cancers terminaux ne sont plus guérissables. Les radicalisés qui ont trouvé Dieu et qui attendent d'aller au paradis, ça n'est plus guérissable. Il y a parfois un effort. Vous voyez mon côté humaniste. J'essaye de guérir ce qui peut l'être encore.
Vous ne croyez pas à la déradicalisation ? Aux cellules de déradicalisation, c'est un terme qu'on entend de plus en plus.
Oui, allez.
Par la littérature.
Enfin, il faut le. Mais non, bien sûr que non. Ça ne sert à rien.
Vous ne croyez pas à ces pouvoirs-là ?
Je crois à la puissance de la littérature, mais pour savoir éprouver la puissance de la littérature, il faut savoir lire. Comme disait le charmant Debord, pour savoir écrire, il faut savoir lire, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. C'est le point le plus important. Il faut savoir vivre, sans quoi vous lisez pas. Vous lisez que vos ruminations, vous cherchez vos propres fantasmes ou vos propres imaginations. Il faut savoir vivre. Le savoir vivre, eh ben, vous voyez, est très en danger par le savoir mourir.
Philippe Solers, vous parliez de la poésie chinoise. J'ai retrouvé d'anciennes interviews. Au sujet de femmes, vous écriviez « Je suis une autoroute à moi tout seul ». C'était concernant vos compagnonnages politiques successifs. J'ai lu dans une interview, donc en 2004, qu'on avait prétendu que vous aviez été maoïste. Vous ne l'avez donc jamais été, hein, je vous cite, « Avec ma petite revue telle quelle, nous avons été accusés de maoïsme ». Donc vous n'avez jamais été maoïste.
Je vais vous avouer quelque chose. Si j'ai été maoïste. Maintenant, je voudrais bien que quelqu'un me dise ce qu'il entend par ce mot et savoir où étaient ses parents ou ses grands-parents dans le passé à propos du maoïsme. Et quelle horreur. Alors, je vais vous dire, faire un scoop là. Un scoop hegélien. Le XXe siècle vous a proposé trois grands criminels. Je crois qu'ils méritent quand même d'être décorés à ce titre. Hein, vous avez eu Staline, qui n'est pas mal. Hitler, oulala. Bon, voilà. Et puis Mao, qui, à mon avis, a quand même 60 millions de morts, etc. Thèse, antithèse, synthèse. C'est fini. La pensée chinoise implique que si on va au bout de quelque chose, on peut atteindre exactement le contraire, c'est la contradiction à la chinoise. Donc maoïste veut dire que j'ai anticipé sur ce que Mao présageait, avec une révolution culturelle affreuse, affreuse, bien sûr. Mais la morale, vous voyez, quand on traite de l'histoire, la morale ne sert pas à grand-chose, tout le monde se sert de la morale. La moraline, comme dit Nietzsche, ça ne va pas très loin. Il faut des coupables, on les trouve tout de suite. Mais, donc, c'est pas le problème.
Mais vous en voulez un peu de ça, de n'avoir rien vu en Chine ?
Mais je m'en veux pas du tout. Je veux absolument être libre de faire ce que je veux. Et voyez-moi, je faisais tout à fait autre chose en même temps. J'appelle ça les identités rapprochées multiples. On s'y perd un peu. C'est ce qui m'est reproché, au fond. Soyez dans votre étiquette, vous êtes casé comme ça. Alors, n'oubliez pas qu'ensuite, j'offre à Jean-Paul II un livre sur la Divine Comédie de Dante. La photo fait scandale. Bon, je ne vous ai pas montré, mais c'est peut-être que je la garde soigneusement. La photo, c'est tout, me bénit.
Oui, parce que précisément, j'avais demandé à Alain Badiou ses engagements sur les
Khmers Rouges. Lui,
et maintenant, il avait fini par dire « je regrette ». Voilà, je me suis trompé. Il avait dit « je regrette ». Vous ne voulez pas qu'on vous mette dans cette posture-là, au fond ?
Ah non, bah, écoutez, j'ai eu des propositions de contrat pour faire moi l'autocritique. J'aurais pu gagner un peu d'argent. Ouais. Non, c'est pas mon genre. Ouais. La morale ne rentre pas dans mes catégories. J'ai une éthique, mais je suis très, très, très peu dans la morale.
Ouais, parce que pour le catholicisme, on se dit c'est pareil. On se dit, au fond, c'est un nouvel avatar. À chaque fois, Solaire s'invente son avatar. Un zigzag de plus.
Il est tellement et maintenant, taré qu'il a des avatars. Oui, ouais. C'est ça. Mais oui, ben vous savez oui, au fond, on est absous. On n'est pas obligé d'aller se confesser. On peut s'absoudre soi-même.
Ouais, surtout grâce à la littérature.
Ah oui.
Pour un moyen d'auto-absolution,
oui,
génial.
Oui, oui. Je demande qu'on me lise, disait le pauvre Aragon à qui on faisait toujours le coup. Il a pas bougé du comité central du Parti communiste français qui avait... Vous savez comment faisait au score le petit pâtissier Duclos dans ces années où il y a eu, paraît-il, des maoïstes. Il faisait 22% le petit pâtissier Duclos aux élections. Regardez où en est le Parti communiste français. On était maoïstes pour attaquer le Parti communiste français. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. C'est tout.
Une question très naïve, mais que je me pose tout le temps à votre sujet, c'est cette histoire de pseudonyme Solers. Hein. Solers, vous l'aviez dit vous-même dans un vrai roman, Solers de Solus et Ars, tout à fait industrieux, habile, adroit, ingénieux. Mais du coup, ce pseudonyme de Solers, par rapport à Joyau, c'était beau Joyau quand même.
Oui, mais j'étais mineur quand j'ai publié. À l'époque, ma famille s'opposait à ce que je prenne... merci d'ailleurs, parce que Joyau, ça brille trop. Donc, Solaire, on voile un peu.
Mais du coup, ça met à distance la sensibilité, l'authenticité, qui joue à plein dans Mouvement. Oui. Du coup, on a l'image du type industrieux, habile, érudit, mais agençant ses potions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Et au fond... Ça nous cache le solaire, ce spontané,
oui,
qui véritablement veut transmettre, on sent la littérature.
Oui, mais parce que c'est une mauvaise interprétation du mot.
Bah, c'est vous qui l'avez donné, ça.
Oui, tout entier art aussi, hein, c'est d'abord rusé, ingénieux aussi. Mais en grec, c'est Polytempos, c'est Ulysse, c'est mon camarade Ulysse, et qui a, comme vous savez, la protection de cette déesse qui m'aime, qui ferme les yeux sur mes turpitudes, qui s'appelle Athéna, ou Minerve, comme dira Hegel, voilà. Et alors, elle ferme les yeux, si je suis un peu trop longtemps chez Calypso, chez Circé, chez Nausicaa, mais elle s'occupe de moi, elle me protège. Parfois, elle est là, ça m'apparaît comme une mouette sur l'océan. C'est vrai, elle apparaît aussi dans l'Odyssée, comme ça.
Mais précisément, Ulysse, on lui reproche la même chose qu'à Solers. Ouh. On lui reproche d'être trop habile, d'avoir effectivement du pouvoir, d'en user, et de ruser, et de trahir aussi grâce à ses ruses. Polymétis.
Et surtout, Polymétis, alors la métisse, on pourra parler longtemps. Et surtout de rentrer chez lui. Où c'est son chien qui le reconnaît. Oh, la vieille nourrice, oui. Mais alors, il était parti très longtemps. Mais il rentre chez lui. Et toute l'Odyssée, c'est ça. Comment rentrer chez soi?
Donc ça vous va, finalement, le côté Solers. Non, mais vous vous dites pas, voilà, Solers a fait de moi, ce pseudonyme a fait de moi une construction un peu méphistophélique.
Pourquoi pas?
De manipulateur.
Manipulateur pour... Oui, bien sûr. Mais c'est à mourir de rire. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut raconter sur un type dont la seule ambition est de rentrer chez lui. C'est extraordinaire.
Et c'est où chez vous, où vous voulez entrer?
Oh, c'est des lieux très précis dans le temps. Hein, c'est Bordeaux, c'est le vert de Pauillac ou de Bordeaux, c'est l'île de Ré où je suis, enfin, c'est des trucs de famille. Mais chez moi, c'est la page que je suis en train d'écrire. Hein. Elle peut être n'importe où, dans un hôtel à New York.
C'est un livre du doute, hein, Mouvement. Enfin, on sent la volonté de remettre justement en mouvement toute cette pensée enquistée, cette France aussi dont vous parlez.
C'est un livre de conviction, c'est-à-dire le contraire de la crise d'identité, du dépressif, de la misère propagée partout, du blocage, des fantasmes négatifs, etc. C'est un livre de conviction extrêmement affirmatif. Et je crois que ça peut toucher. Ce qui importe, c'est les singularités.
Est-ce que ce livre dont vous dites que je crois qu'il peut toucher, on sent que vous êtes parfaitement sincère, vraiment, dans ce livre, est-ce que c'est un livre aussi qui est fait, et est-ce que c'est ce que vous voulez faire maintenant, dans les années qui vous restent à vivre, de compenser le côté Solers, le parrain des lettres, le mandarin, le pape, le cardinal? C'est très très liturgique, hein, dans le champ lexical
ecclésiastique,
ou alors mafieux, cardinaliste mafieux. Ouais, est-ce que c'est fait pour compenser un peu ça, finalement? Sur le tard, Solers essaie de toucher et de plus faire de l'expérimentation ou du jeu littéraire.
Écoutez, c'était le bon temps, quand j'étais traité de tout ça, les réseaux Solers, le système Solers, le manipulateur maintenant, c'est moi qui faisais les prix littéraires, c'est moi qui dirigeais tout en sous-main. Oh, que c'était beau cette époque. Le parrain des lettres, mais j'avais ça, et oui. Et puis, au fond, non, c'est pas moi. Moi, je continuais mon travail, voilà.
Deux citations de vous pour terminer. Enfin, non, pas de vous. D'ailleurs, j'ai dit de vous. Il y en a une de Vivant Denon. Donc c'est pas mal, c'est un hommage.
Oui, voilà. Avant que je m'en occupe, croyez-moi, il n'y avait pas grand monde.
Exactement. Hein. Ma vie a été remplie, j'ai beaucoup joui. hein, vivant de nom. Et puis une phrase de la, dans la préface de La guerre du goût. Vous dites que Femme n'a jamais été lue, il attend toujours d'être lu. J'aurais vous demander, Philippe Solers, puisque ce livre se termine par ciel et par même traverser le ciel, je peux lire la dernière page ou vous voulez, on le fait jamais ici, mais je avec vous, le dernier, je vous laisse lire la dernière page de Mouvement.
Ça s'appelle Matin, et si je crois que je m'en souviens, ça doit être toujours le même effort du type pour convoquer les cinq sens à la fois. Alors c'est de nouveau le grand calme, le parfum des lauriers flotte dans le jardin, odore. Une ombre plane sur l'eau bleue, à peine un léger nuage. Bon, je devais faire ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin de savoir ce que je ferai plus tard. Un lecteur averti reconnaît tout de suite une phrase des poésies de Lautréamont. La nuit a été tranquille, et une fois de plus, j'ai embrassé l'aube d'été. Un lecteur subtil reconnaît tout de suite Rimbaud dans « J'ai embrassé l'aube d'été », d'autant plus que la phrase suivante, c'est aussi simple qu'une phrase musicale, c'est exactement du Rimbaud. Bien. Alors, les deux lignes et demie, vous voyez, c'est des beautés, ça. Hein, maintenant, la brise du nord-est m'a préféré. Ah, là, un lecteur subtil sent que, par exemple, Andenken, le grand poème de Hölderlin sur Bordeaux, commence par « Le vent du nord-est se lève de tous les vents, mon préféré ». Parce que il faut être assez barin pour connaître les vents. Moi, je m'intéresse beaucoup aux vents. Le nordais, comme on dit chez nous, le vent du nord-est, ou le norrois, ou voilà, ça dépend. Hein, la météo, c'est très passionnant, la météo. Alors, maintenant, la brise du nord-est, ma préférée, se lève. Et, rapide, une mouette très reconnaissable traverse le ciel. Bon, très reconnaissable, évidemment, c'est encore Athéna, ma déesse qui me protège, qui traverse le ciel sous forme de mouette. Les mouettes m'aiment beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est du chinois.
Philippe Solers, donc, c'est un livre, donc Mouvement se termine par le mot ciel, par l'expression traverser le ciel, comme les mouettes, mais comme les comètes aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser aux générations qui viennent, aux lecteurs ?
Mais peu importe.
Quand vous serez mort ?
Ça me préoccupe absolument pas.
C'est pas important de transmettre ?
Pas du tout.
La transmission ?
Non, mais non, un transmetteur, ça voudrait dire qu'on a une fonction sociale. Pas du tout. Je vis, je disparais, mais je ne comprends pas pourquoi je devrais mourir.
Merci Philippe Solers d'avoir passé cette heure avec nous autour de votre livre Mouvement, mais on a parlé de bien d'autres choses, comme votre livre hein, qui parle de tous les sujets hein, pratiquement, hein, comme une sorte de gigantesque constellation.
Tous les sujets, non, mais les sujets importants, je crois, parce que la musique nous appelle et vous entendez quelqu'un qui parle de tout à travers ce qu'il joue.
Voilà, c'est Bach. Variation Goldberg, variation 17. Glenn Gould les interprète. Pourquoi ce choix, donc, Philippe Solers ?
Parce que c'est la vie à son plus haut niveau de virtuosité.
Merci, Philippe Solers.
Merci.
C'était le temps des écrivains avec Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et à la technique Jason Taous.